11h, France Bleu La Rochelle, à votre service. Anne Delanoë.
Allez, soyez les bienvenus dans votre émission où nous traitons des sujets de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on va parler de nature et plus particulièrement des oiseaux. Alors, si vous êtes bénévole au sein d'une association pour la protection des oiseaux, peut-être que vous pouvez prendre la parole et témoigner pour nous expliquer ce que vous essayez de mettre en place au quotidien durant certaines périodes de l'année. N'hésitez pas à prendre la parole dès maintenant au 05 46 50 67 68.
À votre service avec les résidentiels, résidence service senior, 8 route de Rochefort à Saint-Sulpice de Royan. Plus d'infos sur www.residentiel.fr.
Et pour en parler, nous sommes aux côtés d'Amandine Delory. Bonjour.
Bonjour Anne.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargée d'accueil et de promotion à la maison du FIR pour la LPO et vous êtes avec nous pour construire justement cette émission autour de la protection des oiseaux avec des choses que nous pouvons mettre en place au quotidien. L'idée tout à l'heure, c'est de se dire, de ressortir avec des petites astuces et des petits tips que vous allez nous donner au cours de cette émission. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle, vous, justement, en tant que chargée d'accueil et de promotion à la maison du FIR?
Oui. Alors, la Maison du FIR, c'est un espace d'accueil qui est situé sur l'île de Ré, aux portes en Ré. C'est l'espace d'accueil de la réserve naturelle nationale de l'île aux Déniges, qui fait partie du réseau donc de réserve nationale français. C'est une réserve qui a son importance au niveau local, à l'échelle de la Charente-Maritime, comme les autres réserves qu'on connaît bien localement, mais aussi à l'échelle internationale, puisque c'est des réserves qui sont situées sur la voie de migration atlantique Est, comme toutes celles qui se trouvent sur la façade atlantique française. Et donc, c'est un lieu de passage ou un lieu de résidence pour des oiseaux pendant une partie de l'année, certains toute l'année, et puis d'autres vont venir juste pour se reproduire ou juste pour passer l'hiver. Voilà, donc notre rôle, c'est de présenter tout ça aux gens, de leur apporter de la connaissance et de leur donner envie de protéger l'environnement.
Et puis, il y a aussi une mission, ça peut être des missions de sauvetage aussi que vous réalisez. Je regardais sur les réseaux sociaux, de temps en temps, ça vous arrive aussi, avec toutes les équipes.
Oui. Oui, de temps en temps et même assez souvent en fait, puisque il y a un centre de soins en Charente-Maritime qui se situe sur l'île d'Oléron et la LPO, un groupe de bénévoles qu'on appelle les rapatrieurs, qui sont en charge de prendre les oiseaux pour les emmener jusqu'au centre de soins. Donc les personnes qui trouvent des oiseaux ou de la petite faune, puisqu'il y a aussi beaucoup de hérissons notamment qui sont récupérés par les gens, ils vont appeler en général la LPO, puisque c'est une des associations les plus connues localement, pour savoir comment faire pour prendre en charge ces animaux et les rapatrier jusqu'au centre de soins. Donc nous, on sert d'intermédiaire et on essaye de faciliter les choses pour assurer la survie des oiseaux
et des autres animaux. Avec aussi l'aspect communication que vous réalisez, parce que c'est important aussi que qu'on puisse être au courant de ce que vous faites. Quand on parle de la protection des oiseaux, c'est en lien aussi avec les insectes. En fait, le 11 mai demain, il y a une journée qui va, on va dire, lier un petit peu tout cela. En fait, à la fois la protection des oiseaux et aussi parler des insectes.
Tout à fait. Ouais. En fait, il y a deux journées par an qui sont en lien avec les oiseaux migrateurs. Donc deux journées mondiales des oiseaux migrateurs. Il y en a une qui est très connue en général, des gens qui s'intéressent un peu à ce sujet, qui se situe en octobre, le Robert Watch, où il y a beaucoup d'animations en Charente-Maritime pour découvrir ça. Et puis il y en a une au printemps pour parler plutôt des migrateurs qui arrivent sur leur site de reproduction, puisque c'est le cas depuis fin mars, début avril. On a pas mal d'oiseaux qui sont arrivés, qui ont commencé à nicher. Et pour les oiseaux migrateurs, pour beaucoup d'oiseaux, alors pas ceux qu'on va voir beaucoup dans les zones humides, mais plutôt ceux qu'on va retrouver dans les zones agricoles, dans les villages, un petit peu aussi certains passereaux des zones humides, les insectes, ils sont vraiment indispensables, puisqu'ils vont servir à se nourrir sur les haltes migratoires, et puis surtout à nourrir les jeunes, puisque tous les oiseaux nourrissent leurs poussins avec des insectes.
On va continuer à en parler ce matin sur France Bleu La Rochelle avec vous et puis Amandine Delory. Et puis aussi, si à la maison vous avez envie de nous appeler, de témoigner, si vous avez mis des choses en place dans votre quotidien pour justement essayer de protéger les oiseaux, vous pouvez prendre la parole jusqu'à 9h50 dans votre service au 05 46 50 67 68. Allez, nous volons avec les oiseaux ce matin et aux côtés d'Amandine Delory, vous êtes chargée de promotion et chargée d'accueil aussi à la maison du FIER pour la LPO sur l'île de Ré. Vous êtes avec nous ce matin pour faire le point, nous donner aussi des astuces pour essayer de mieux protéger les oiseaux dans notre jardin, nous donner aussi des astuces et surtout peut-être faire un peu un état des lieux des fausses bonnes idées. On aura l'occasion d'en reparler ce matin. Et nous sommes aussi avec Colette. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Bleu La Rochelle. En fait, vous êtes avec nous parce que vous êtes une fidèle bénévole à la LPO, si mes infos sont exactes.
Oui, fidèle quand je peux. Mais oui, j'y trouve beaucoup d'intérêt.
Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, vous, en tant que bénévole, Colette, quand vous pouvez y aller ?
Alors quand je participe, alors j'ai participé à des, j'ai commencé en fait par participer à des sorties LPO, mais pas du tout en tant que bénévole, en tant que cliente quoi, tout simplement. Oui. Pour observer les oiseaux, finalement réaliser qu'autour de moi il y avait plein d'oiseaux et que un oiseau c'est pas seulement un oiseau, c'est une espèce, il y en a plein de différents, on n'a jamais fini de les connaître. Et puis donc ça m'a donné envie de revenir et de participer un petit peu. Alors quelquefois je participe à des sorties, je tiens la longue vue, j'accompagne l'ornithologue qui fait la sortie, ou bien alors ça m'est arrivé de participer à l'entretien à l'intérieur de la réserve, l'entretien des buttes dans les marais pour reconstituer des îlots pour les oiseaux, pour qu'ils puissent nicher. J'ai fait aussi un petit peu du repérage de rapaces au milieu de l'île de Ré pour trouver des milans, des buges, autour des palombes, et essayer de trouver les nids. Bon, oui. C'est un petit peu difficile. Du comptage d'oiseaux, mais ça je le fais aussi chez moi, quoi.
Ah, j'allais vous poser la question, vous Colette, est-ce que, puisque l'idée de cette émission c'est de aussi vous demander si vous mettez en place des choses chez vous, donc vous faites à la fois le comptage, est-ce que vous nourrissez aussi peut-être les oiseaux à certaines périodes ?
Oui, l'hiver, bien sûr, toute l'année et surtout l'été, je leur mets à boire, hein. Oui, je le fais. J'ai compté aussi des oiseaux échoués, hein, sur les plages, hein, pour la LPO. Le comptage d'oiseaux, c'est extrêmement facile à faire, hein. Alors là, j'ai commencé au petit déjeuner en prenant mon café, en regardant par la fenêtre. Et puis après, dans le cadre de l'organisation nationale, voire internationale, ça permet de surveiller l'évolution des espèces, en fait.
Oui, bien sûr.
Et là, il y en a, hein, très bientôt, là, je crois, comptage des oiseaux de jardin. Il y en a de moins en moins à compter, malheureusement. Ça, j'observe que...
Vous avez en tête, Colette, je ne sais pas ce que vous avez compté dernièrement ou par rapport à l'année passée, vous avez ça peut-être sous les yeux en tête vous savez plus, ouais.
Ces deux dernières années, j'en ai compté beaucoup moins. Hein. Là, cette année, j'ai des retours de mésanges, j'ai plus de mésanges que ces deux dernières années. Et puis alors, pendant les années Covid, alors là, j'avais eu des verdiers, beaucoup de chardonnerets, j'en ai encore un petit peu des chardonnerets, mais des serins, voilà.
Oui, c'est vrai que c'est le constat que beaucoup ont fait, hein, justement, pendant les années Covid. Amandine, vous êtes d'accord? Enfin, j'imagine que vous n'allez pas dire le contraire par rapport à ce que dit Colette.
Non, tout à fait. Hein, pendant la période de pandémie, ça a été alors d'abord une grande chance pour la faune, parce que le fait que l'homme laisse enfin un peu de place à la nature au lieu d'essayer de monopoliser tout l'espace, ça a donné beaucoup de place, notamment aux oiseaux qui sont beaucoup développés, installés un petit peu partout. Le constat qui a été fait, par exemple, sur la réserve naturelle, c'est que quand quand on a commencé à revenir, alors il y a une partie de l'équipe qui continue à aller travailler dans la réserve, mais du coup comme il n'y avait pas de fréquentation sur les sentiers, il y a des oiseaux qui s'étaient vraiment installés pour nicher juste au bord de la piste cyclable. Enfin voilà, ils avaient vraiment pris tout l'espace sans dérangement créé par les hommes. Et puis ben le après a été un petit peu plus compliqué pour eux, parce que du coup ben on a très vite repris notre vie normale, et en fait il y a eu plein de nids abandonnés, plein de dérangements qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'échecs de reproduction à la sortie du confinement, parce que du coup tout cet espace qui avait été pris, il a été récupéré par l'homme hyper rapidement, malheureusement.
On va continuer à en parler. Merci beaucoup Colette, pour votre témoignage ce matin.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, et voilà, continuez aussi votre travail. Merci en tout cas pour ce que vous faites en tant que bénévole justement à la LPO. On parle des oiseaux ce matin dans votre service. Si vous, comme Colette aussi, vous essayez de mettre en place des choses dans votre quotidien, vous pouvez nous joindre dès maintenant au 05 46 50 67 68. On peut compter les oiseaux dans notre jardin, les nourrir aussi à certaines périodes de l'année. On en parle ce matin avec Amandine Delory. Je rappelle que vous êtes chargée d'accueil et de promotion à la Maison du Fier pour la LPO. La Maison du Fier, c'est au Port-en-Ré. Ça sera d'ailleurs ouvert, si je dis pas de bêtises, cet après-midi à partir de 14h30, si jamais vous avez envie d'y aller. Quelles sont les espèces menacées chez nous, Amandine ?
Alors, il y a pas mal d'espèces qui vont être menacées. Alors, à des niveaux très différents, hein, puisque la liste rouge qui regroupe les espèces menacées mondialement on va dire pour celles qui sont concernées, parce qu'il y a des espèces qui sont classées en bon statut, mais ça va aller de vulnérable à en danger critique d'extinction. On a beaucoup plus d'espèces qui sont concernées par le statut vulnérable dans la région. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en fait toutes ces espèces qui sont classées à partir de ce statut, c'est des espèces qui sont en déclin pour certaines depuis plusieurs dizaines d'années, et que l'importance, elle va être de s'assurer que ces espèces elles continuent pas de diminuer pour aller vers ces encore plus bas niveaux de classement dans cette liste. Donc ça, malheureusement, pour certaines espèces, c'est trop peu mis en place, et puis il y a des choses, plein de facteurs croisés qui vont faire que les espèces continuent à diminuer. Il y a beaucoup d'espèces qui se maintiennent mieux maintenant dans les espèces vulnérables, toutes celles qui sont en contact avec les zones humides, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de zones qui vont être protégées, des zones d'accueil, et puis aussi parce que ces espèces, pour la plupart, elles vont pas être chassables. Donc là, on peut prendre des espèces comme les barges, qui sont vulnérables et qui sont, elles, en recours très régulièrement pour ne pas être chassables justement sur le sol français, ou les courlis, puisque c'est des espèces qui sont en diminution. Donc ça, c'est des espèces qu'on va avoir sur les littorales, plutôt dans les marais quand même. Et puis après, ben, les espèces qui sont les plus sensibles, en fait, aujourd'hui, c'est les espèces de milieux agricoles et dans les villages, puisque là, elles vont être soumises à beaucoup plus de contraintes, notamment les problèmes avec l'agriculture intensive, l'usage massif de pesticides sur certains sites. Le fait qu'on ait des habitats de plus en plus fragmentés, très peu de trames vertes, même si c'est des choses sur lesquelles les collectivités et les associations travaillent. Mais du coup, des oiseaux comme l'alouette des champs, par exemple, tous les insectivores, eux, ils vont être vraiment très soumis à des contraintes, puisque les populations d'insectes, elles sont en chute très forte depuis la deuxième moitié du XXe siècle, qu'on est à 70% de niveau de disparition sur la plupart des espèces d'insectes en Europe, et du coup, des difficultés à se nourrir, à nourrir les jeunes, et le réchauffement climatique n'aide pas. Puisque pour les espèces migratrices, ben en plus on a des périodes en fait où on va avoir un décalage entre l'arrivée des oiseaux migrateurs et la période d'éclosion des insectes, ce qui fait qu'il y a des espèces qui arrivent et les insectes qui sont censés manger ont déjà éclos et sont déjà trop grands pour permettre le nourrissage des jeunes, donc ça va créer de la mortalité.
On va essayer justement de... Vous allez nous donner quelques petites astuces pour peut-être essayer de sauver des oiseaux, on va dire, en tout cas ce que l'on peut faire chez soi si on a la chance d'avoir un jardin, par exemple. On continue à en parler ce matin. À vos côtés, Amandine Delory, et vous aussi, si vous souhaitez témoigner ou apporter aussi votre éclairage, 05 46 50 67 68. Amandine Delory, donc, qui est chargée d'accueil et de promotion à la Maison du Fier pour la LPO. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Vous êtes installée à Matha et vous aviez une question autour des mésanges.
Oui, des mésanges et des chardonnerets également, j'en ai. J'ai nourri toutes ces petites bêtes cet hiver avec des boules de graisse. Maintenant, ils ont fait leur nid, ils ont pondu, les petits sont nés. Qu'est-ce que je peux leur donner ? Est-ce que je peux, dois les laisser comme ça sans rien donner ? Ou sinon, quoi leur donner ?
C'est une très bonne question, Mireille.
Effectivement. Bonjour, Mireille.
Bonjour.
Alors, en fait, en matière de nourrissage, il y a des pratiques qui sont très importantes à connaître. C'est que, alors, ce que vous faites l'hiver, c'est très bien. Faire du nourrissage pour les oiseaux qui restent sur nos territoires passer l'hiver, ça va les aider à passer l'hiver puisqu'ils peuvent avoir des difficultés à trouver des ressources alimentaires. Donc, les boules de graisse, ça va être à favoriser pendant la période de gel ou pendant les grosses périodes de froid.
Et puis, je vous dirais que la semaine dernière, ils en ont encore mangé.
Mais oui. Ah. Alors, c'est justement pour ça que il y a des règles importantes à suivre. C'est qu'en fait, si vous leur donnez à manger, ils vont continuer à venir de toute façon, puisque
ouais,
ça sera un accès facile.
D'ailleurs.
Ça, je me doute. Ce sera un accès très facile à la nourriture et du coup, pour eux, ils vont favoriser ça plutôt que la chasse de ce qu'ils sont censés vraiment manger.
Ah, d'accord.
Donc en fait, la règle à suivre, c'est que on va dire qu'on peut faire du nourrissage jusque à la mi-mars,
oui,
à la fin avril éventuellement, mais ensuite il faut absolument arrêter, puisque il faut laisser les oiseaux avoir leur comportement naturel qui va être de chasser des insectes pour nourrir les jeunes.
D'accord.
Le problème du nourrissage toute l'année, c'est qu'en fait c'est un peu le même problème que nous, et l'accès à la nourriture un peu industrielle très facile, qu'on va avoir une facilité à trouver, à acheter plutôt que de se faire à manger, mais ça va avoir des conséquences sur notre organisme. C'est la même chose pour les oiseaux. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est les laisser chasser des insectes pour nourrir leurs jeunes, plutôt que d'avoir un accès facile à de la nourriture qui va être moins nutritive et qui peut créer des carences en fait chez les jeunes, des mauvais développement et ne pas assurer la survie des oisillons, en fait.
Ah, d'accord.
Est-ce que néanmoins on peut, ou Mireille peut laisser toujours un peu d'eau, ou plutôt à une partir d'une période?
Non. Par contre,
l'eau, il paraît qu'il ne faut pas leur en donner. Moi, j'ai la rivière chez moi.
Alors, si vous avez la rivière, c'est très bien. Mais si vous voulez pouvoir voir les oiseaux dans votre jardin, mieux vaut leur mettre un petit bac où ils vont pouvoir faire leur toilette et s'ébrouer avec de l'eau, plutôt que de leur mettre de la nourriture. Ça sera bien mieux pour leur comportement naturel. Ça va leur permettre de faire... ça va leur permettre de pouvoir se nettoyer, de s'ébrouer un peu. Vous verrez des merles, vous verrez peut-être des rouges-gorges aussi qui vont venir dedans. La règle à respecter, par contre, ça va être de faire attention à ce que ce soit pas quelque chose de posé à terre, plutôt quelque chose sur pied pour éviter la prédation des chats.
D'accord.
Bon, voilà, franchement, c'était une super
merci
question, Mireille.
Merci pour toutes ces informations, merci.
Merci en tout cas, Amandine Delory, pour ces réponses. On va continuer à parler de tout cela. Et puis, nous serons aussi dans quelques minutes avec Léa, qui va nous parler aussi de sa forme d'engagement, aussi qui était en service civique. Si vous aussi, vous avez des questions à poser, comme la fille Mireille, 05 46 50 67 68. Allez, on observe de près aujourd'hui les oiseaux pour essayer de mieux les protéger. Avec les conseils de notre invitée, c'est Amandine Delory qui est chargée d'accueil de promotion à la Maison du Fier pour la LPO. Et vous pouvez poser aussi vos questions 05 46 50 67 68 ou apporter aussi un éclairage ou un témoignage comme le fait Léa ce matin. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté, merci d'être avec nous. Vous êtes ici parce que vous, c'est quelque chose c'est un sujet, une thématique qui vous touche. Vous avez d'ailleurs réalisé un service civique au sein de la LPO. Qu'est-ce qui vous anime en fait dans tout cela ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez depuis toute petite peut-être aussi ?
Alors pas du tout. Je m'étais jamais intéressée aux oiseaux avant. Et puis en rentrant à la fac, j'ai commencé à faire des études sur l'environnement. Et dans ma classe, j'avais forcément des gens qui étaient passionnés en ornithologie. Et donc j'ai commencé à discuter avec eux et ils m'ont transmis leur passion. On a pu aussi avoir un peu des cours justement sur les oiseaux. Et puis petit à petit, je me suis renseignée et j'ai trouvé un service civique à la Maison du Fier. Et c'est là que tout a vraiment commencé pour moi, parce que être entouré de gens qui s'y connaissent beaucoup, ça aide et ça permet de s'y connaître encore plus vite. Donc c'était.
Oui, ça vous a permis peut-être aussi, Léa, de mettre en place des choses dans votre quotidien que vous ne faisiez pas, ou peut-être d'avoir un autre regard aussi sur ce sujet, sur les oiseaux.
Tout à fait. Bah, et de plus en plus, je me suis intéressée au sujet, donc je lis et je me renseigne sur la protection des oiseaux. Et puis, quand je peux et quand j'ai la possibilité, je fais des comptages d'oiseaux. Donc, ça peut être des oiseaux de jardin, ou alors quand je vais au travail tous les matins, je passe devant une bougère, et donc sur les berges, il y a souvent beaucoup d'oiseaux. Et je prends le temps de les compter pour ensuite les inscrire sur un site qui permet de renseigner tous les oiseaux qui ont été vus en France. Et donc, d'avoir un comptage par les passionnés permet de faire avancer les données.
Amandine, le site dont parle Léa, c'est quoi si jamais nous aussi on a envie de se lancer voilà, après l'émission par exemple?
Oui, alors c'est le site Faune, donc comme la faune, F-A-U-N-E, qui peut être Faune Charente-Maritime pour les personnes qui habitent ici, ou Faune France plus largement. Et en fait c'est une plateforme participative, donc elle est très facile d'utilisation, il suffit de se créer un compte, et puis ensuite on peut renseigner tous les oiseaux qu'on a observés, et d'autres taxons également, donc c'est possible de saisir des mammifères, des lézards, des serpents, énormément de choses. Et en fait, c'est des données qui sont très précieuses puisqu'elles permettent de collecter des données que les scientifiques ou les équipes qui travaillent dans le milieu naturaliste n'ont pas forcément le temps de saisir. Faune, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des centaines de milliers de données qui sont saisies sur certains pas de temps, qui vont faire qu'en fait, pour certaines espèces, on va avoir des informations qu'on n'aurait pas réussi nécessairement à trouver. Et donc en fait, c'est très important que le public participe.
En fait,
tout à fait. Donc pour certaines espèces, les données, elles vont être reprises par la LPO France ou par des organismes de recherche pour faire de la recherche scientifique sur les données. Alors c'est plus difficile à traiter parce qu'il n'y a pas de protocole scientifique derrière, donc toutes les données ne peuvent pas être exploitées, mais ça va quand même permettre de donner des bons indicateurs pour certaines espèces. Donc les gens qui utilisent cette plateforme, on les invite vraiment à saisir des données régulièrement, parce que c'est utilisé beaucoup par les ornithos très confirmés qu'on appelle les cocheurs, qui adorent cocher différentes espèces d'oiseaux qui sont jamais pu observer. Donc ça va être vraiment pour les oiseaux plus rares, mais pour les espèces plus communes, ça va permettre d'accumuler beaucoup de données et là d'avoir des évolutions de population plus précises.
On a oublié de poser la question à Mireille tout à l'heure, qui était avec nous à Matin, mais peut-être, voilà, si vous nous écoutez encore, Mireille, si jamais vous pouvez aussi répertorier sur ce site. Merci beaucoup Léa, en tout cas, pour votre témoignage ce matin.
Je vous en prie.
Et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
On va continuer à parler justement de comptage des oiseaux. Que faire aussi pour essayer de faire en sorte que voilà, tout ça se passe bien? Alors on a parlé justement de cette façon de les répertorier sur ce site internet Faune, alors France peut-être, si on est un petit peu partout, ou si on se balade, et puis aussi chez nous en fonction. On va continuer à évoquer cette thématique ce matin à vos côtés. Amandine Delory, vous êtes chargée d'accueil et de promotion à la Maison du FIR pour la LPO. À tout de suite. Quelles sont les bonnes pratiques pour faire en sorte que les oiseaux soient plus nombreux, de les peut-être répertorier aussi, les nourrir, oui, mais à certaines périodes de l'année, pas tout le temps, comme vous l'avez expliqué. On continue à parler de cela avec vous, Amandine Delory, vous êtes chargée d'accueil et de promotion à la Maison du FIR pour la LPO. C'est vrai qu'il y a la flore aussi, c'est important, on en a un petit peu moins parlé au cours de cette émission, mais ça a une grande place aussi.
Oui, tout à fait. Dans les causes de disparition ou de réduction des oiseaux, on va retrouver le problème de la fragmentation des habitats, et c'est quelque chose qui est constatable très facilement par les Français, puisque suite au remembrement, en France, on a une absence massive dans certaines zones de haies bocagères qui servent de trame verte, du coup, pour la faune, et qui vont abriter vraiment énormément d'espèces. Donc il y a des programmes en ce moment de replantation des haies pour les agriculteurs, pour les sensibiliser à ça. Ça va être particulièrement important, parce que ça donne des zones de refuge et puis des zones d'alimentation aussi. Il y a beaucoup de plantes et d'animaux qui vont se développer autour de ça, beaucoup d'insectes qui vont venir, et du coup ça va être de l'alimentation plus accessible, des baies parfois aussi aussi pour certains oiseaux qui vont pouvoir se nourrir de ça. Alors ça, c'est bien sur les zones plutôt agricoles, mais les personnes qui possèdent un jardin suffisamment grand vont pouvoir participer à ça en faisant attention à quelques bonnes pratiques. Alors la pratique là, plus importante, ça va être de respecter les périodes de taille dans l'année pour la végétation. Ça, les gens peuvent trouver plein de bons conseils sur le site de la LPO, puisque c'est l'année thématique des arbres et des haies.
Donc il y a tout ce qu'il faut.
Il y a plein de bons conseils sur le site de la LPO France. Et puis, le conseil principal, c'est du coup, à partir du 15 mars, plus de taille du tout. Donc en fait, ça c'est une habitude qu'il faut absolument prendre. On taille les arbres à l'automne et à la fin de l'hiver. Et puis une fois que les repousses ont commencé, on ne taille plus, on n'abat pas d'arbres surtout, parce que ça va détruire des nids, créer de la mortalité. Et à une autre échelle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est laisser des zones d'herbes folles dans son jardin. Donc c'est pas forcément une très grosse zone pour les gens qui pourraient avoir un petit peu peur. Tout ça, c'est un plus en fait pour la faune en général, pas que pour les oiseaux. De toute façon, c'est indispensable en fait de protéger la chaîne alimentaire dans son ensemble. Donc, ce qui va être primordial, on en reparle, hein, c'est les insectes. Et du coup, les zones d'herbes folles, elles vont permettre on va avoir plein de plantes mellifères par exemple, attirer différents insectes et qui vont du coup pouvoir être des zones de chasse pour les oiseaux qui vont venir se nourrir dans ces zones-là et qui vont pouvoir nourrir leurs jeunes également grâce à ça.
Bon, on n'a pas le temps malheureusement de parler de l'agenda, mais il y a beaucoup de choses qui sont organisées, des découvertes et des sorties nature, mais on peut retrouver tout ça sur le site
Tout à fait, sur le site de la LPO France pour l'agenda national et sur le site maisondufier.fr pour les activités sur l'île de Ré.
Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils, Amandine Delory. Je rappelle que vous êtes chargée d'accueil et de promotion à la Maison du Fier pour la LPO. Merci.
Je vous en prie.
À bientôt, au revoir.
Bonne journée.
Et on retrouve Étienne Dao avec le titre Le Phare.
À votre service, avec les résidentiels. Résidence Service Senior, 8 route de Rochefort à Saint-Sulpice-de-Royans. Plus d'infos sur www.residentiel.fr.